Oui, aujourd'hui à l'émission Rêver pour moi, je reçois Claire Calland. Claire, tu es chercheur en littérature et en mythologie comparée. Tu as publié une trentaine d'articles en France et au Québec. Tu as dirigé avec Denise Brassard un collectif qui s'intitule Horizon du mythe. Et tu vas faire paraître cet automne chez VLB un livre très intéressant dont on va parler aujourd'hui tout particulièrement, qui s'intitule Endiabolie, les fondements imaginaires de la barbarie contemporaine. Alors je suis très privilégiée parce que j'ai pu lire ton livre avant qu'il ne soit paru, ce qui me semble très très bien. Et ce qui m'a fascinée, c'est de voir dans ton texte les liens qu'il y a entre la barbarie et le rêve. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait pour toi tout un lien entre, comment dire, une société, une certaine société du cauchemar et une analyse de cette société du cauchemar. C'est-à-dire que tu essayes de nous montrer dans ton livre comment le rêve, finalement, en ce moment, détermine le social. Alors, ma première question va porter d'où vient, quel est cet intérêt pour toi pour le cauchemar, pour le rêve?
Je te remercie, Catherine, d'abord pour ton invitation. Alors, mon intérêt, en fait, n'est pas tellement un intérêt personnel dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui est une grande rêveuse. Je suis plutôt une oublieuse de mes rêves. Et c'est peut-être justement pour ça, on ne sait jamais, que je m'intéresse particulièrement aux rêves en ce qu'il est passage de l'inconscient au conscient. En fait, ce qui me plaît dans le rêve, c'est son modelage. Donc, je suis quelqu'un qui va vraiment travailler la mise en mots, la mise en images. Pour faire très court, je dirais que mon intérêt principal du rêve, c'est sa narration. Comment le mettre en mots, comment lui donner du sens. Et comment le faire voir? Je suis quelqu'un de très intéressé par rapport à l'image. Je travaille sur l'imaginaire, je travaille sur la dynamique de l'image. J'ai été nourrie aux théories de l'imaginaire. Ça a été mon premier biberon universitaire. Donc, ce qui va me plaire à partir de là, c'est par exemple tout ce qui concerne l'hypotypose, très très joli mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire tous ces procédés pour figurer, pour donner à voir par le biais des mots. Alors, il y a des réussites, il y a des choses qui me plaisent plus ou moins, bien entendu, et de temps en temps, comme ça, j'ai des éblouissements. Ça peut être une page, ça peut être un livre en entier, dans n'importe quel genre de littérature, hein, du plus populaire au plus savant, comme on dit. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce passage-là. C'est comment finalement on peut raconter des rêves comme on raconte des contes ou des mythes.
Et là-dedans, j'ai l'impression que ce qui t'intéresse plus, ce n'est pas le rêve joyeux, hein, c'est pas tu t'intéresses tout particulièrement, alors au lien entre le cauchemar, des visions cauchemardesques et le politique ou le social. Je crois que enfin, à partir de ce que j'ai lu, ta spécialité, c'est un peu les visions horrifiantes du monde.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que dans la société dans laquelle je vis, que nous partageons ensemble, le rêve joyeux nous appartient en tant qu'individu. Donc c'est quelque chose qui m'est personnel, qui est, j'ai beaucoup de chance, de l'ordre de ma vie privée. Et le cauchemar, c'est ce que je vais partager avec les autres, ce qui est toujours, bien sûr, un bon partage. C'est très cathartique, hein, mon affaire. Mais en tout cas, non, plus sérieusement, le cauchemar est vraiment, je crois, ce qu'on est en train de vivre tous actuellement. On est pétri par toute une série de cauchemars, par le biais de la télévision, par le biais du cinéma, par le biais de nos lectures, même des intellectuels hein, qui ont une vision assez pessimiste de ce qui nous environne, du politique, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, on sent qu'il y a une panique sans doute propre à toute fin de millénaire et de début.
Mmh.
Et je crois qu'il ne faut pas mésestimer ce passage-là. On est dans une transition et pour faire court et le dire de manière très franche, on patauge un peu.
Mmh.
Et donc, on cauchemarde beaucoup. Et c'est effectivement ça qui va m'intéresser à observer et dans un second temps à analyser, à comprendre aussi d'un point de vue politique comment c'est instrumentalisé. Et à comprendre pourquoi telle ou telle forme de cauchemar fonctionne, d'autres pas. Et finalement, on en revient toujours à ça. Qu'est-ce que ça nous dit de nous en tant qu'être humain?
Est-ce que tu penses que nous savons que nous cauchemardons? Est-ce qu'on se réveille des fois? Est-ce qu'on a des moments où on est ailleurs que dans le cauchemar? Est-ce qu'on est conscient de ça en ce moment? Ou est-ce que c'est seulement... des gens qui peuvent analyser ce cauchemar, qui sont capables de nous le montrer. Est-ce que tu penses que la société le sait qu'elle est...
Ben, la société, d'une manière générale, c'est toujours la difficulté. C'est comment faire une généralité à partir de sa propre pensée. Ça serait, à mon avis, estimer que tout le monde pense de la même manière que nous. Et puis, on sait bien qu'on est, on est tous différents. Je pense que... tous les faits divers qui nous sont montrés depuis quelques années me font dire qu'il y a plutôt une grande confusion entre le réel et l'imaginaire. Il y a une perte de repères et on le voit effectivement de manière assez dramatique. Partout les faits de sang, de violence, où on nous dit « mais je l'ai vu dans tel ou tel film », etc. Et, donc, en termes de conscience, je ne pourrais pas faire de généralité. Moi, j'essaie de me mettre à distance, ce qui n'empêche pas le plaisir de
vivre. Bien sûr.
Dans le moment de vivre, par exemple, un cauchemar cinématographique, mais après de me mettre à distance et à me dire « bon, d'accord, qu'est-ce que ça dit ?»
Oui.
De nous.
Donc tu analyses la société grâce à ses rêves. Hein? Tu analyses les rêves ou les cauchemars d'une société. Et je pense que dans ton travail, et puis tu pourras me dire le contraire, mais il y a une place peut-être un peu privilégiée des États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis seraient une société qui nous offre à voir ou qui nous impose ces cauchemars. Hein. Et c'est un peu comment j'ai lu parfois ton texte. Il y a peut-être d'autres sociétés qui le font aussi d'ailleurs. Et on pourrait parler des États-Unis comme d'une société du cauchemar, même si les autres sociétés ne sont pas exemptes de cauchemars.
Oui, en fait, ma position, puisque tu l'as précisé tout à l'heure, donc je travaille sur les mythes, c'est justement de voir la société... la société actuelle, c'est ça qui m'intéresse, à travers ces mythes. Parce que le choix de tel ou tel mythe dominant n'est jamais un choix innocent, c'est toujours un choix politique, inconsciemment ou pas. Mais bon, à un moment donné, oui, il y a quelque chose qui se passe du côté du conscient. Si tu veux, c'est un peu comme le rêve, il n'y a pas de clé de songe universelle. Il n'y a pas de clé pour ouvrir tous les mythes, mais on peut les étudier dans un contexte particulier, donc à un moment donné. Et là, on s'aperçoit que finalement, il y a toujours une société qui va dominer un espace géopolitique, donc à un moment, et que c'est cette société dominante qui s'impose au niveau économique, au niveau politique, qui se pose aussi comme modèle et qui donc donne à voir ses mythes. Et après se passe le phénomène d'acculturation pour les autres. Ça a toujours été comme ça. Après, ce qui varie, c'est bien entendu les choix qui se font par rapport à la dite société. Or, il se trouve que la société qui domine actuellement, c'est la société états-unienne. C'est elle qui donne le là, finalement, à tout l'Occident. Alors après, on veut s'en différencier ou pas selon les pays, mais c'est elle qui donne le là. Et à partir de là, je regarde, je vois ce que ça donne. Et les États-Unis, il faut bien le dire, c'est la terre du rêve, c'est l'Eldorado, c'est le rêve américain avec tout ce que ça implique. C'est le rêve pointé, montré du doigt comme la plus grande idéologie possible, mais comme quelque chose de faisable aux États-Unis. Or, les États-Unis est une terre qui s'est fondée par les mythes. C'est vraiment une terre mythique par excellence, alors que l'Europe s'en était un petit peu coupée, et des mythes très violents. Et cette violence de départ, finalement, qu'elle projette parce qu'elle offre à voir au reste du monde, et ça en fait des cauchemars absolument terrifiants, épouvantables, et tous les termes horrifiques, etc., etc. Mais c'est en même temps fascinant parce qu'elle recompose absolument, pour moi qui suis européenne en tout cas, toute une vision du monde. Le rêve américain, c'est le rêve de la réussite. A contrario, le cauchemar, c'est le cauchemar de la faillite. Une fois qu'on a dit cela, qu'on a compris un peu comment fonctionnait donc cette espèce de terreau immense et en même temps très fécond, hein, j'aime beaucoup les États-Unis, il ne faut pas se tromper, on peut aller dans le détail. Et là, on s'aperçoit que finalement notre système de valeurs ne fonctionne plus. Je te prendrai un exemple, puisque j'en parle dans mon essai, où je finis sur l'analyse des tueurs en série. Le tueur en série est l'image, n'est pas l'image du cauchemar de la faillite du tout. C'est pour moi l'image du rêve américain, celui du contrôle, celui de la réussite. Simplement, il est déformé. Donc à partir de là, tout notre système de valeurs se trouve à refaire. Et là encore, ça sert de modèle pour l'Europe. On l'a bien vu dans quelques cas récents, hein, où le tueur en série, qui est proprement états-unien, commence à se développer et à avoir beaucoup de succès en Europe.
Est-ce que tu crois que l'Europe n'a plus de mythes propres ou de cauchemars propres ou de rêves propres? Est-ce que tu as l'impression que, et c'est pas parce que, mais que la contagion des États-Unis a réussi à créer une espèce d'homogénéité du cauchemar? Ou est-ce qu'il y a encore, d'après toi, des cauchemars propres?
Oui, oui, oui. Je ne dis en son temps. Il s'impose dans l'idée qu'il forme un modèle, par exemple, comment créer en fiction un cauchemar. Ça, à mon avis, c'est évident. Et les grands succès français dans le domaine du cauchemar ou du rêve, pour faire court, ont un modèle américain. On prend le cinquième élément, on prend même Caro et Genet, par exemple, que j'aime beaucoup, on prend Polanski, etc., etc., on en a quelques-uns. Donc, le savoir-faire est états-unien. Ça, c'est une chose. Ensuite, je crois profondément que la terre américaine étant quand même fondée sur le puritanisme, et il y a des traces très très fortes encore par rapport à la fiction, il y a une hantise très très forte du puritanisme, ça ressurgit dans les cauchemars qui nous sont montrés. On reste par exemple en France plutôt d'une culture catholique, mais à force de montrer ces cauchemars puritains, le système finit par être modulé. C'est normal, hein, on est tous influencés par ce qu'on finit par voir.
Mais par exemple, tu vois, les cauchemars historiques qu'il y a pu y avoir en Europe, Est-ce que tu penses qu'ils sont vécus là aussi, par exemple, c'est en Allemagne que, ou en Pologne qu'il y a eu l'extermination des Juifs? Oui, aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je reçois Claire Calland. Claire, tu es chercheure en littérature et en mythologie comparée. Tu as publié une trentaine d'articles en France et au Québec. Tu as dirigé avec Denise Brassard un collectif qui s'intitule Horizon du mythe. Et tu vas faire paraître cet automne chez VLB un livre très intéressant dont on va parler aujourd'hui tout particulièrement, qui s'intitule « En diabolie, les fondements imaginaires de la barbarie contemporaine ». Alors je suis très privilégiée parce que j'ai pu lire ton livre avant qu'il ne soit paru, ce qui me semble très très bien. Et ce qui m'a fascinée, c'est de voir dans ton texte les liens qu'il y a entre la barbarie et le rêve. Donc j'avais l'impression qu'il y avait pour toi tout un lien entre une société, une certaine société du cauchemar et une analyse de cette société du cauchemar. C'est-à-dire que tu essayes de nous montrer dans ton livre comment le rêve, finalement, en ce moment, détermine le social. Alors, ma première question va porter, quel est cet intérêt pour toi, pour le cauchemar, pour le rêve ?
Je te remercie, Catherine, d'abord pour ton invitation. Alors, mon intérêt, en fait, n'est pas tellement un intérêt personnel, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui est une grande rêveuse. Je suis plutôt une oublieuse de mes rêves. Et c'est peut-être justement pour ça, on ne sait jamais, que je m'intéresse particulièrement aux rêves en ce qu'il est passage de l'inconscient au conscient. En fait, ce qui me plaît dans le rêve, c'est son modelage. Donc je suis quelqu'un qui va vraiment travailler la mise en mots, la mise en image. Pour faire très court, je dirais que mon intérêt principal du rêve, c'est sa narration. Comment le mettre en mots, comment lui donner du sens et comment le faire voir. Je suis quelqu'un de très intéressé par rapport à l'image. Je travaille sur l'imaginaire, je travaille sur la dynamique de l'image. J'ai été nourrie